Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour Un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les poilus de la critique que j'ai nommé Sophie Avon de Sud-Ouest, Daniel Eman qui était là auparavant pour Marianne qui est dorénavant au masque pour Bande à part qui est le magazine de cinéma en ligne s'il vous plaît, Nicolas Chaler de l'Obs, Pierrot Pierre Murat. Toujours de Télérama. Et on parle ce soir des films, vous l'avez compris, en tout cas, Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, et des films de Soderbergh, de Yorgos Lanthimos, de Roman Polanski, d'Olivier Marchal et Jeune femme de Léonore Serrail. Dans le courrier de la semaine, avis partagé, il fallait s'y attendre sur la Palme d'Or, The Square, très discuté ici au masque de Ruben Östlund, avec ceux qui n'aiment pas comme Thierry, qui reste très dubitatif, un peu long et surtout loin du niveau des dernières récompenses comme Mommy ou Wintersleep. Pour Barbara Trimbach de Verrières-le-Buisson, il y avait le film à sketch avec The Square, il y a désormais le film à performance artistique. Bref, ceci n'est pas un film, mais une succession de happening performance artistique. Au début, ça marche à peu près, mais ce parti pris ne tient pas la route, et même, las, passablement, j'adore l'art contemporain, si, si, mais pas quand je vais au ciné. Maxence Mout dénonce une lourdeur déployée à une vitesse de tortue. 2h20 pour montrer comment un garçon qui prône la bien-pensance dans son musée ne se l'applique pas à lui-même. C'est un des films qui m'a le plus rasé de l'année. Au contraire, pour Éric Lévesque, The Square est un pur chef-d'œuvre, la Dolce Vita en version luthérienne. Un film généreux, portrait de notre monde, de caste, où l'on porte toujours les boutons de manchette, non, plus beaucoup, en or, de son grand-père, peut-être, si, peut-être Pierrot, et où un petit macho, manant, vient demander justice. Jean-Jacques Corriot d'Aix-en-Provence s'amuse. Éric Neuhoff traite le film de droite, et voilà les critiques qui se prétendent de gauche, qui renchérissent, n'ayant pas compris que ce film qui se moque de la bourgeoisie bien-pensante et des bobos est donc plutôt de gauche. Éric Neuhoff, ajoute Jean-François Bacot, a qualifié cette Palme d'Or de vrai film de droite. Une création de gauche devrait-elle nécessairement avaler toutes les dérives de l'art contemporain ? En fait, ce carré de lumière ne semble relever de la fable, symbolisant l'enfermement d'un tout petit monde intellectuel bien-pensant, aveugle à la misère et à la violence qui l'assaille. Quant à Sandrine Couret d'Evreux, elle pense que la scène du gala, qui est violente d'ailleurs, est réelle, tous ces gens bien baissant les yeux face à la réalité. Rapidement, à propos de Détroit de Catherine Bigelow, Mona Hamzar, juste que c'était un film médiocre dans sa narration et dans le développement de ses personnages. Vous avez fait au masque l'éloge d'un film mal foutu, long et ennuyeux. Même sentiment de Marianne Draveil. Vos critiques élogieuses pour Détroit se sont uniquement arrêtées à la forme du film. Or, le problème, c'est le fond. Le film arrive à nous faire croire qu'en 67, il y avait 3 flics racistes aux États-Unis et basta. Ce qu'a fait Bigelow est historiquement grave et d'aussi mauvais goût que son détestable générique début en animation. Voilà, enfin, Pierrot, oui. Dernière lettre de la semaine, c'est Romain Thomassin de Brooklyn aux USA qui exprime son vif désaccord avec notre auditeur Charles Tessier, dont j'avais lu la lettre, qui soutenait que la fin d'un film n'entache pas le plaisir de son visionnage.
C'est lui qui a raison.
Romain Thomassin nous écrit des États-Unis la chose suivante, certes, une fin ne fait pas un film, mais la dévoiler ne fait pas une critique non plus. Si la critique est bonne, elle est capable de donner envie ou de dissuader d'aller voir un film sans en révéler le dénouement.
Ça, c'est pas faux.
C'est toi qui le dis.
Ouais. Allez, on commence.
Mais on peut la dévoiler quelquefois.
Absolument. Ah. On commence avec Au revoir là-haut, l'adaptation à gros budget par Albert Dupontel du roman de Pierre Lemaitre, prix Goncourt 2013 et premier volume d'une trilogie dont je vous l'annonce, le deuxième tome paraîtra en janvier prochain. L'histoire, je vous le rappelle, de deux poilus, l'artiste de bonne famille Édouard Péricourt et le petit comptable Albert Maillard, dont l'amitié est née dans les tranchées et dans la même détestation, on les comprend, d'un lieutenant criminel, Pradel. Après la guerre, Édouard, qui est une gueule cassée, et Albert, qui est traumatisé, vont se venger de l'ingratitude de l'État en montant une escroquerie assez astucieuse d'ailleurs au monument aux morts, pendant que de son côté, le lieutenant Pradel fait de juteux bénéfices en signant avec l'État un contrat pour transférer dans les cimetières militaires les dépouilles des poilus. En fait, ce sont des cercueils remplis de terre et de cailloux, voire de soldats allemands. Film de près de 2 heures, Albert Dupontel est Albert Maillard. Nahuel Pérez Biscayart, la révélation des 120 battements, est Édouard Péricourt. Laurent Lafitte joue très bien l'affreux Pradel. Et il faut aussi compter avec Nils Haristrup, Émilie Dequesne, Mélanie Thierry, Michel Vuillermoz, André Marcon et Philippe Duquesne. C'est vrai que de la part du cinéaste de Bernie et de 9 mois ferme, j'ai été surpris. Surpris plutôt d'ailleurs en bien, mis à part la scène du cheval enfoui sous terre par un obus allemand. À part ça, j'ai été étonné par la manière dont Dupontel s'est emparé de ce roman de Pierre Lemaitre. Et vous, Pierre?
Ben oui, c'est assez étonnant. En même temps, on retrouve quand même quelques thèmes de Dupontel, c'est-à-dire l'anarchisme, tout ça est très très bien. Alors, ce qui est très curieux, c'est que ça démarre comme un film réaliste, parce que c'est vrai que les premières minutes, le conflit lui-même est filmé à peu près comme Spielberg, quoi. C'est presque il faut sauver le soldat Ryan
ou cheval de guerre.
Voilà, non, mais c'est là. Et ensuite, là, les scènes très impressionnantes où on voit la gueule cassée qui souffre. Enfin, c'est presque vraiment c'est du naturalisme, quasiment. Et ensuite, on part vers la fable. Et alors là, il y a des moments que je trouve très, très, très...
Enfin, une fable, une fable très réaliste en même temps, hein, parce que ces arnaques ont vraiment eu lieu. Hein,
oui, voilà. Mais on part, stylistiquement parlant, dans l'image et dans le style, vers une bande dessinée, en quelque sorte. Donc c'est ce mélange de genre, de réalisme du début, la bande dessinée qui passe plutôt bien. Alors, il y a l'affrontement des deux, Dupontel et Nahuel Pérez Biscayart, et ce dernier, lui, est une fois de plus formidable parce qu'il ne parle pas. On ne l'entendra jamais sa voix puisqu'il a la gorge emportée, etc. Et donc, on ne le voit uniquement que par une suite de masques qu'il s'invente. Et ça, c'est ce que je trouve la partie la plus réussie du film parce qu'elle est poétique, parce qu'elle est inventive et que ces masques qu'il invente à chaque fois reflètent à la fois et l'action et la psychologie et son état d'esprit. Et ça, je trouve que c'est une très belle idée qui est menée jusqu'au bout avec grand charme.
Je sens que tu vas émettre une réserve.
En même temps, il y a des moments qui sont un tout petit peu plus, un peu lent, un peu pesant. Et en même temps, il y a aussi des seconds rôles absolument formidables. Par exemple, le moment où apparaît Michel Vuillermoz, qui est extraordinaire en fonctionnaire incorruptible.
Sauf que Vuillermoz, quoi qu'il fasse, de toute manière...
Oui, très souvent, il est formidable. Mais là, particulièrement, il est génial. Bon. Donc, c'est très bien. Peut-être pas aussi enthousiaste que je m'attendais à l'être.
Nicolas?
Alors moi, j'étais très, très excité par ce film. Je trouve que, en plus, Dupontel est arrivé, je trouve, à un cap avec son précédent film qui était 9 mois ferme, où il avait vraiment, trouvé une tenue à son style et à son ambition et tout ça. Là, je suis assez partagé. C'est-à-dire que je trouve que les premières 20 minutes, je les trouve formidables. Toutes les scènes, dans les tranchées, parce qu'il y a à la fois une ambition à la Sergio Leone, c'est-à-dire de raconter les à côté de l'histoire, ces espèces de personnages oubliés. Et en même temps, à côté, il y a une envie, cette histoire non officielle et ces personnages ces brigands qui profitent de l'histoire pour en fait faire leur petit marché. Il y a vraiment une ambition à Sergio Leone.
Hein, en même temps. Hein.
Bien sûr, je parle vraiment d'un point de vue de cinéma. Et à côté, il y a aussi une envie d'aller vers du côté de Jeunet, de Tardy, d'un quelque chose comme ça, de plus BD, de plus parfois un peu une imagerie un peu plus lisse. Alors c'est drôle, il y a comme ça ce paradoxe chez Dupontel et en même temps il y a un foisonnement dans le film assez maladif. Et alors que dès qu'il s'arrête et qu'il s'arrête sur des scènes, il y a une scène notamment de dîner chez le, alors je vais pas raconter trop, mais Dupontel va dans la famille de son acolyte. Et dès qu'il se pose un peu, qu'il pose des scènes, c'est formidable parce qu'il arrive, il a un don d'écriture des personnages, il a une vision, il a toujours ce mauvais esprit qui est toujours là et en même temps avec un talent de directeur d'acteur, notamment je pense à Philippe Huchamp, qui est un de ses acteurs favoris qui campe un personnage qui est l'assistant d'Arstrup, qui est complètement abruti, et enfin il est délicieux. audacieux. Et voilà, et je trouve qu'il y a une ambition presque, des ambitions presque paradoxales chez Dupontel, qui parfois, qui c'est dommage parce que le film est vraiment foisonnant. Alors ça passe de moments de grâce à d'autres. Alors moi, je suis moins convaincu par les moments poétiques, justement les hommages à Méliès, tout ça avec cette série de masques.
Moi, je trouve ça beau, ça.
Il s'arrête pas assez, il donne pas au film le temps de respirer, justement de trouver la poésie laquelle il court.
Allez, vous avez
raison, c'est qu'il y a des mouvements de caméra très voyants.
Alors mais moi, je trouve ça formidable parce que je trouve que Dupontel n'a rien abdiqué de son humour mal élevé dans une fresque, dans une fresque tragique, ambitieuse, et qu'il est presque lui-même étonné de pouvoir dominer cette expérience tout à fait nouvelle chez lui. Et je trouve qu'il y a une sincérité, un élan et une habileté, effectivement, à mélanger les scènes les plus burlesques même, avec cette ouverture, il y a très longtemps qu'on n'a pas vu les tranchées de 14 aussi somptueusement filmées, et vraiment, je trouve que c'est une ouverture de culot formidable, et les personnages, je trouve, sont dessinés. On n'a pas parlé, effectivement, la gueule cassée poétique ne peut pas s'exprimer. Il y a quelqu'un qui le comprend malgré ses baroques borigmes, et c'est une petite fille très mystérieuse et un très très joli personnage qui est joué par une petite Héloïse Balster. Et il y a effectivement, je trouve, que des paysages très archétypiques comme le grand bourgeois Nils Haristrup, il arrive à en faire quelque chose de très pathétique. La fin est bouleversante et on ne la révélera pas. Moi, je trouve que cette ambition réussie, moi j'ai trouvé que je lui ai dit bonjour là-haut et j'applaudis.
D'ailleurs, je pense que le film marche. J'ai pas regardé les chiffres, mais il marche bien.
Hein. Oui, il a
pas
bien
mal,
démarré,
pas mal,
il a bien
pas
démarré,
mal.
Ouais.
Sophie.
Oui, moi j'ai été très surprise parce que c'est vraiment pas du tout ma tasse de thé, ce genre de film. J'aime pas les reconstitutions, j'aime pas cette esthétique un peu à la Jeunet, cette colorisation.
J'aime pas la Grande Guerre.
J'aime pas les artifices. Bon, la matière première, elle est là quand même, mais j'aime pas les artifices. J'aime pas le grotesque mélangé à l'horreur. Enfin, et Dieu sait qu'il en met du grotesque. Et pourtant. J'ai été bouleversée par le film. J'ai trouvé que c'est un très beau film. Je trouve qu'on entend la rage de Dupontel. On a parlé d'innocence, je sais plus où. Il y a une rage, il y a une colère. Il n'abdique pas en effet son style. Il n'abdique pas ce qu'il est. Il arrive à faire entendre, malgré la caricature, parce qu'il y a de la caricature, malgré le grotesque, il arrive à faire entendre la douleur de l'époque. Il arrive à faire entendre les injustices universelles qui sont de l'époque, mais qui sont aussi aujourd'hui. Il arrive à faire entendre vraiment énormément de choses.
Oui, l'après-guerre, cette espèce de no man's land.
Oui, et avec toujours pareil, il n'y a pas de secret, avec des personnages qui sont super bien dessinés. Même Laurent Lafitte, qui est un personnage plutôt caricatural.
Il se régale.
Et même lui, il fait entendre une douleur. Même lui, il fait entendre quelque chose de fort et de profond. Le personnage joué par Biscaillard, il est formidable, caché par ses masques, dans la délicatesse. Le personnage de Nils Haristrup, en effet, de ce père.
Qui joue le père d'Edouard.
Haristrup, qui est en plus, qui a une lassitude sur le visage, une façon de jouer la lassitude et l'épuisement et la souffrance. Enfin, franchement, il arrive à. J'ai été très dubitative et j'ai été emportée par. Ouais, par cette, il y a cette colère qu'on entend, quoi.
Au revoir là-haut, c'est donc le film d'Albert Dupontel, d'après Pierre Lemaître. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film ?
Oui, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je crois qu'effectivement c'est un film d'une grande dimension tragique qui était très bien souligné. On pense également à d'autres œuvres de cinéma, La vie, rien d'autre. On pense aussi à Les fragments d'Antonin, bien évidemment. On pense aussi à des chefs-d'œuvre, À l'ouest, rien de nouveau, Les hommes comptes de Francesco Rosi. Bien sûr, Stanley Kubrick, Les sentiers de la gloire.
L'ouverture grotesque, là, hein,
oui,
en plus.
L'ouverture du film est époustouflante. On est quand même en période de centenaire de la Grande Guerre. Hein. Dans quelques jours, ce sera le centenaire du retour de Clémenceau au pouvoir. Il faut relire, par exemple, Les poilus de Pierre Miquel, qu'on connaissait bien sur France Inter, ou La grande guerre des Français de Jean-Baptiste Durosel, 14-18.
Vous commencez la bibliographie sur 14-18, là,
c'est absolument
là jusqu'à 23h. Hein.
Et je pense qu'il faut relire ça, et surtout se souvenir, ce que disait Madame Danielle Eymann, la dimension tragique, se souvenir qu'en 1914, ils sont encore en pantalon rouge à ce moment-là, les soldats français, il y a à la fin, sur les 5 premiers mois de la guerre, 360 000 soldats français ont été tués. C'est la ville de Toulouse rayée de la carte et 720 000 blessés dans un pays de 39 millions d'habitants alors que l'Allemagne a 63 millions d'habitants. C'est impressionnant, on ne s'en est jamais remis. C'est
Merci
tout ce que je voulais dire.
Merci de votre intervention. Au revoir là-haut, donc, d'Albert Dupontel. Autre film tiré d'un livre, d'après une histoire vraie, un roman que moi j'avais trouvé très réussi de Delphine de Vigan, très cauchemardesque en tout cas, et qui avait paru en 2015. L'histoire, d'ailleurs sans doute en partie autobiographique, d'une romancière à succès, mais en panne d'inspiration, qui se laisse envoûter, dévorer, envahir, manipuler, persécuté par une admiratrice inconnue qui débarque du jour au lendemain dans sa vie, un vrai thriller psychologique. À mon avis, par la manière dont c'était écrit, c'est à peu près inadaptable. Bref, dont Roman Polanski, associé étrangement à Olivier Assayas pour le scénario, donne aujourd'hui une version qu'on avait vue à Cannes, très aseptisée, avec Emmanuel Seigné dans le rôle de la romancière en détresse et Eva Green dans celui de l'empoisonneuse. Dans tous les sens du terme. Alors, il paraît que depuis le Festival de Cannes, où le film, qui est une sorte de psychose au rabais, nous a quand même tous laissé de marbre, hein, dans mon souvenir.
Ça nous a fait rire.
Ça nous a fait rire, en fait, oui. Enfin, non, c'était entre les deux. Il paraît donc que depuis Cannes, Polanski l'a remonté intégralement.
Oui, le générique.
Moi, j'en suis
pas intégralement.
J'en suis resté à la première version.
On l'a tous revu et
vertueusement, nous l'avons tous revu.
Donc alors, ce film.
Il est aussi mauvais.
Aussi mauvais qu'à Cannes.
C'est surtout, enfin, ce qui est dramatique, me semble-t-il, c'est que c'est un contresens absolu par rapport au livre.
Absolument.
Comme tu
absolument.
Le soulignes, le livre était formidable parce que le postulat de Delphine de Vigan, c'était dire, il n'y a pas de fiction. Histoire vraie, pas histoire vraie, on s'en fout. Du moment que c'est bien raconté, toutes les histoires sont vraies. C'était magnifique comme idée. Et on a l'impression qu'il n'a de cesse de montrer que tout est faux dans le film. Donc ça peut pas marcher une seconde. Dès le début, Eva Green arrive.
D'autant que dans le film, on comprend dès la première minute ce qui va se passer à la fin. Contrairement au livre.
Mais contrairement au livre, qui est justement très subtil et qui bon. Mais là, au contraire, elle arrive. Mais à peine elle rentre dans une pièce où elle sourit, où elle s'adresse à Emmanuel Seigné, elle a l'air effrayante, et on a l'impression qu'elle dit, vous savez, elle roule des yeux, je ne suis pas du tout celle que vous croyez. Et alors, à force.
Moi, je ne lui ouvre pas la porte, par exemple, tu vois. Je ne lui ouvre pas la porte.
Jusqu'au moment où elle cache
alors
le robot.
Alors que dans le livre, on était très séduit par cette.
Parce qu'elle était, effectivement, on avait l'impression que c'était une femme qui, en effet, voulait le bien et ça marchait sur cette illusion. Il détruit tout le suspense, il le détruit. Alors, je veux bien croire qu'il ait fallu qu'il ait rajouté une dynamique propre au cinéma, qui s'éloigne du livre d'une manière ou d'une autre. Mais c'est complètement, je sais pas comment dire, je ne comprends pas comment Polanski a perdu à ce point le sens de ce qu'on peut montrer, suggérer, faire deviner au cinéma, parce que il y a aucune ambiguïté, quoi. Dès le début, on voit que c'est la méchante, quoi. C'est ridicule.
De même qu'on a pas. Personnellement, j'ai du mal à imaginer. Non, pour l'instant, je ne donne pas encore la parole. J'ai du mal à imaginer Emmanuel Seigné en romancière, même dans ce film. Elle ne donne rien de ce
qu'est. Oui, mais c'est surtout. La direction d'acteur avec Eva Green qui marche pas.
C'est autre chose que ce que nous montre Emmanuel Seigné dans ce film. Daniel.
Oui, c'est embarrassant.
On est dans cette émission pour dire ce qu'on pense des
films.
Mais
bien entendu. Alors,
Il n'y a rien d'embarrassant, je veux dire. On n'est pas.
Non, mais si, c'est embarrassant par rapport à l'œuvre de Polanski.
Il a fait grand film, mais il s'est planté, ça arrive.
Je signale quand même.
Mais
je signale quand même qu'il y a une rétrospective. Polanski à la Cinémathèque.
On s'en est aperçu, ça.
Oui, mais enfin bon. Et pas de la meilleure façon. Bon, d'accord, mais. Tout de même, cette rétrospective a lieu jusqu'au 21 novembre et on peut revoir des très grands films de Roman Polanski. Je suis désolée, on va pas jeter le roman avec le
Daniel,
on
ne sort pas une filmographie chaque fois qu'on remet en question un film.
Non, je dis que ce film-là est raté. Dis que ce film-là a soi-disant été remonté et que vertueusement nous sommes allés le revoir et nous n'y avons vu aucun changement. Donc je ne sais pas comment il l'a remonté, mais il l'a remonté dans le même sens.
Il peut le remonter dans tous les sens. Ça sera toujours mauvais. Hein.
Et c'est vrai que la perversion laborieuse à ce point-là, c'est quand même extraordinaire parce que tout de même le terrain, même s'il a, disons, perverti, alors pour le coup l'adaptation est de la mauvaise façon, c'était quand même un sujet pour lui. Le double, la perversion, le mystère, c'était vraiment du Polanski sur un plateau. Et donc, qu'il ait raté, alors que je trouve, par exemple, que s'attaquant aussi à la littérature, il avait très très bien réussi The Ghostwriter,
c'était très beau,
qui était quand même un très 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 beau film avec là aussi.
Oui, sur le problème du nègre.
Voilà, sur le problème du nègre et qui était un film formidable. Donc c'est vrai que et les deux femmes ne font que ce qu'on leur donne à faire. Et tu vas boire ton bouillon. Non, faut pas boire ton bouillon.
Et encore, ça c'est la fin, ça. Oui.
Quand elle casse le robot, non, c'est quelque chose.
Ah oui. Ah bah moi j'abonde dans votre sens. Enfin, c'est le symptôme des cinéastes, je dis même des cinéastes post-hitchcockiens qui travaillent le thriller un peu ironique et où là c'est un thriller ironique, mais il y a ni humour ni suspense. Donc du coup, il reste quoi? Il reste une espèce d'objet décharné où il décline des motifs jusqu'à l'autoparodie en même temps sans aucune inspiration. Moi à un moment, je me demande même si Polanski se moque pas et du film et des personnages et de nous, quoi. Il y a une forme de
à Cannes, c'est ce qu'on a pensé à un moment donné.
Il y a vraiment tellement une forme de suicide artistique incroyable et c'est assez symptomatique de ces cinéastes qui travaillent dans ce registre-là et qui, en panne d'inspiration, finissent par s'auto-parodier. Moi, alors ça me fait penser dans un autre registre à ce que faisait De Palma ces dernières années. Je trouve que De Palma, il y a un sens du baroque, il y a comme ça quelque chose il y a un mauvais goût qui le rend toujours un peu plus. Alors que là, chez Polanski, qui travaille quand même quelque chose dans la mesure, dans l'épure et tout ça, on se trouve avec une espèce d'objet aberrant et sans aucune. Il n'y a plus rien, il ne reste plus rien. Et puis, ne surnage malheureusement que cette pauvre Eva Green, que si ce film était utilisé dans un bilan de compétences après Polanski, ce serait Pôle Emploi direct, quoi. Enfin, c'est vraiment ça fait mal, quoi, parce que moi Eva Green, ouais. On se demande à quel point d'ailleurs c'est lui qui la dirige mal ou c'est elle qui est perdue dans le film.
Je crois que c'est lui.
C'est vraiment douloureux, quoi, vraiment.
Alors, moi, comme toutes les semaines, j'ai ouvert mon Télérama.
Et surprise.
Et je vois quoi, Pierre Murat. Qui me dit que c'est digne de Fritz Lang.
Période américaine, je précise tout de même.
Parce que alors, Pierrot,
ça va être compliqué parce que vous avez été tellement outrancier que. Oui. La subtilité de Polanski, quand il veut la trouver, il la trouve. Quand il fait Rosemary's Babies, il fait exactement ce que vous souhaitez qu'il fasse, c'est-à-dire peu à peu, on découvre le mal qui progresse avec un sens du suspense. Ça, il sait faire très bien, et c'est pas ce qu'il a voulu faire là. Moi, le livre, pardon, je m'en fiche. Ce que je vois, c'est simplement que, bien sûr, il nous montre, dès les 30 premières secondes, il nous dit, un peu comme dans Columbo, si vous voulez, pour faire court, voilà, celle-là est la victime, celle-là est la coupable. Donc c'est fait, c'est pas la peine, après, de ricaner en disant, ah, mais j'ai compris qu'elle était la méchante. Et que, bien sûr que vous avez, on a tous compris, puisqu'il veut...
Mais quel intérêt ça, alors?
Ça a intérêt qu'il fait, en effet, un exercice de style en disant... Pourquoi un écrivain peut être atteint d'une faiblesse totale et comment il se fait manipuler? Et comment, pourquoi? Ça devient donc un thriller sur la psychologie d'Emmanuel Seigné. Pourquoi accepte-t-elle que cette femme, dont tout le monde sait, sauf elle, que c'est une salope, une garce, une dangereuse, s'installe en face d'elle, puis chez elle, puis l'entraîne dans une maison isolée. Et à partir de là, ça devient un exercice de style, mais formidable, épuré, en effet, et très sec, et très... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fioriture, il n'y a rien. Et dire, voilà, c'est une lutte à mort entre deux femmes, ou peut-être entre soi et soi. Donc, ça devient un film... totalement polanskien. Alors, c'est peut-être pas son meilleur. Moi, je préfère Rosemary's Baby ou Chinatown et surtout Cul-de-sac. Mais que c'est nul, ça me paraît être plus qu'exagéré. Et il y a une maîtrise dans la mise en scène. Alors, s'il n'y a pas de mise en scène là, alors moi, je sais pas ce que c'est de la mise en scène.
Mais il n'y a aucun maîtrise. Il n'y a même pas de maîtrise. Il n'y a pas de suspense. Il y a la psychologie de poisson rouge du personnage, quand même.
Mais il n'y a pas de poisson rouge. Mais c'est dramatique.
Ses réactions sont aberrantes. Oui, mais ses réactions sont aberrantes. Et par un moment, on y croit. C'est-à-dire que,
parce que tu as jamais vu des gens en déprime qui acceptent d'être tyrannisés par quelqu'un.
Mais pas du tout, mais c'est la manière dont on présente.
Bah, c'est même
présenter le monde d'inspiration avec la fille qui toutes les 15 minutes va se remettre sur son ordi avec son document Word blanc et puis l'autre qui arrive derrière au-dessus d'elle.
C'est
le plan pour débutants.
Parce que, attendez, revoyez un peu les Fritz Lang période américaine, c'est pas toujours d'une extrême finesse, contrairement à ce que certains...
Oui, mais justement, aujourd'hui, le cinéma, on peut plus se permettre ça. Aujourd'hui, on est des spectateurs avisés, on est des spectateurs expérimentés.
Parce que les autres, dans les années 50, ils étaient des cons.
Mais
enfin,
le cinéma,
ils n'étaient pas plus cons.
Mais oui, on a vu beaucoup plus de films. On ne peut plus faire le même scène cinéma.
Mais
je suis désolée.
Et
ça,
fait,
la preuve, ça ne marche
bien.
Pas.
Mais
ça peut pas marcher.
On
en a vu
Sophie.
Trop de films. Sophie, non, je suis pas d'accord. Pas ça peut pas marcher.
Mais non, parce qu'on n'est pas moderne, parce qu'on fait des choses un peu
différemment
que les anciens.
Je te parle juste
du
fait.
Il y a du cinéma classique qui existe aussi. Eh ben, il fait un cinéma classique qu'il sait faire. Et il le fait très bien.
Il fait un cinéma à la loupe, un cinéma sénile, je suis désolée.
Il est pur, il est vide. Il est vide tout.
Mais il est vide. Tous les films sont vides d'une certaine manière.
Permets-moi de
douter
de ton expression exercice de style. Parce que ça,
c'est un exercice de style, bien sûr.
Oui, mais il faudrait qu'il y ait du style. D'après une histoire vraie, c'est donc le film de Roman Polanski. Des réactions sur ce film, non? Tant pis. Logan Lucky, le nouveau film de Steven Soderbergh, le réalisateur de Sexe, je vous le rappelle, Mensonges et Vidéos, qui lui vaut d'avoir été à 26 ans le plus jeune Palme d'Or à Cannes et d'Ocean's Eleven. Et Logan Lucky, c'est un polar de près de 2 heures avec Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig et Channing, c'est Jimmy Logan, dont le genou est en bouillie, qui convainc son frère Clyde, c'est Adam Driver qui est manchot lui, de commettre un braquage pendant la fameuse course automobile que connaît très bien Pierre, de la Coca-Cola 600.
J'y vais chaque année.
Où tu vas chaque année, je sais, qui est une sorte d'exercice de style automobile. Hein, au moment où on célèbre le Memorial Day, et pour ouvrir le coffre-fort, bah, il s'associe, ce qui est logique, avec un criminel, Joe Bang, c'est Daniel Craig, plus peroxydé que Nicolas Chalère, pas du tout style James Bond. Le seul problème, c'est que le mec, il est en prison. Bref, association digne, pour moi, des pieds nickelés, derrière laquelle on a le droit d'apprécier une certaine satire de l'Amérique actuelle, pour le coup, pas celle des années 50. Trumpienne. Nicolas ?
Oui, bah écoutez...
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir. Non, mais Logan Lucky, je trouve que c'est un film... Alors, c'est, pour le coup, les films ne sont pas comparables, mais c'est tout l'inverse de Dupontel, c'est-à-dire que... Du film de Dupontel, c'est-à-dire que là...
Ah oui, c'est très loin du
Dupontel. On arrive sur un film qui, comme ça, en apparence, donne dans la lignée un peu de ses Ocean's Eleven, c'est-à-dire ses films de braquage, très pop, très scintillants, qui ont fait la gloire de Soderbergh à une époque. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, faut préciser que Soderbergh revient après 4 ans et demi de pseudo-retraite, loin des plateaux, où il s'est consacré à une série qui est The Nick, qui était absolument formidable. Et son retour au cinéma, il le fait, j'allais dire, presque par la petite porte, par un projet, comme ça, en apparence, clinquant dans la lignée, qui est en fait une espèce de petit film assez modeste, qui, comme ça, décline une espèce de poésie et de personnages assez émouvants, qu'on découvre petit à petit. Il y a un côté, autant dans Ocean's Eleven, qui était un film comme ça, qui était une série, sur des personnages, et avec des acteurs comme ça, très, il y a un côté tube pop assez étincelant. Là, on est dans une espèce de chanson folk qui loue le bon sens de l'Amérique profonde, avec je trouve un sens politique assez beau. Alors ça se fait vraiment.
Sans,
le film se
sans
gagne.
Qu'il y ait un suspense digne
voilà,
de.
C'est que le film se gagne au fur et à mesure.
Ocean's Eleven, hein.
C'est qu'il est un peu tout ce qui est dans le braquage, dans la mise en place du braquage, c'est un peu mécanique et il prend son voilà. temps. Il est un peu pépère. C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu pépère dans le film, mais qui au final le rend assez touchant. C'est-à-dire que le film dure 2 heures. Alors on pourra dire que c'est un petit peu long et tout ça, mais c'est aussi ça qui fait qu'il y a comme ça une espèce de petite musique qui se crée. C'est pas dénué de surprise à la fin parce qu'il y a l'arrivée, l'irruption d'Hilary Swank.
Ah non,
on va pas en dire trop.
On sait pas ce qui va se passer à la fin.
Mais alors voilà, on peut se dire au début, tiens, qu'est-ce qui nous resserre une soupe qu'on a déjà appréciée, qu'on a déjà vue. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'assez touchant et de très pertinent politiquement sur le bon sens d'une Amérique profonde qu'aujourd'hui on a un peu trop tendance à caricaturer en l'associant à Trump. Et,
c'est bien.
Et voilà.
Daniel.
Oui. Alors, heureusement, ça s'appelle Logan.
Ça tirait très bien le peroxydé de Craig.
Tu crois pas tout de suite. mais peut-être, oui. Alors, non, il est formidable. En bagnard peroxydé, I am incarcerated. Oui, bah oui, alors on va le désincarcérer pour qu'il. Évidemment, il aide au braquage parce que lui, il est très, très fort. Non, mais effectivement, Nicolas a raison parce que le fond de l'affaire, c'est pas des pieds nickelés, c'est pas des bras cassés, c'est un peu un film sur la lutte des classes, voilà. Mmh. On va vraiment détrousser des riches, mais tellement dégoulinants de fric que c'en est totalement écœurant. Et effectivement, un manchot, un boiteux,
deux idiots, voilà.
Les frères, c'est pas un niveau, c'est pas un QI très impressionnant.
Oui, c'est pas un QI, mais ils ont une revanche à prendre. Logan est viré parce qu'il boite, donc c'est pas très bien, et il faisait très bien son boulot, il jette son casque de chantier. Je veux dire, il y a une colère, et effectivement, j'ai rarement vu des braqueurs aussi sympathiques, voilà. Et quand même, je trouve que le braquage lui-même, même s'il est un peu longuet, effectivement, parce que évidemment, Söderberg est grisé
il est pas palpitant.
Quand même, c'est compliqué, hein.
Oui, c'est une usine à gaz.
Moi, je trouve que c'est assez vertueux.
Moi, je suis d'accord avec Nicolas et Daniel. J'étais un peu déçue au départ qu'ils reviennent au cinéma par la petite porte, par un film aussi modeste et qu'on a quand même déjà vu avec un script quand même déjà. Et finalement, il m'a complètement séduite, le film, parce que c'est une étude de milieu. Et il arrive à avoir cette distance parfaite avec ses personnages, et c'est des prolos. Et il en parle, il les montre à la bonne distance, sans aucune condescendance, voilà. Avec beaucoup de tendresse et en même temps avec de la causticité, avec de l'humour. Alors l'usine à gaz, tout ça, le côté braquage, il y a 3 films de braquage ce soir au programme, c'est tous des usines à gaz et finalement on s'en fout, ce qui compte c'est effectivement les gens qui font le braquage et c'est la façon dont il étudie le milieu. Et là je trouve qu'il a une, il revient au cinéma, encore une fois, des personnages, des bonnes histoires et ça c'est merveilleux parce qu'il en fait des personnages effectivement très émouvants, quoi, très
ça aurait pu être aussi, enfin, c'est l'esprit de ces films, de ces polars en noir et blanc des années 60. On aurait pu imaginer aussi un Ventura dans un de ces rôles-là.
Oui, tout à fait. Ils sont plein de tendresse.
Pierrot.
C'est super. Allez-y. Vous allez passer un moment, puis, drôle, un moment superbe, quoi. C'est sympa.
C'est un peu un exercice de style sur le genre.
C'est un exercice de style, absolument. Mais bien sûr. Mais oui, c'est un exercice de style, absolument. Très réussi, lui aussi. Et avec des personnages.
Là, on y croit.
Daniel a tout à fait raison. C'est-à-dire que c'est un film qui est entre alacrité et douceur. Parce que c'est vrai qu'il y a le propos. Ils veulent se venger. Ils veulent et en même temps, ils sont désarmant parce que pas très très intelligent, mais quand même malin, parce que ce qu'ils imaginent,
oui,
malgré
malin.
Tout, moi je n'y arriverai pas, hein, personnellement, je le dis tout de suite.
Tu dis ça, oui, tu dis ça.
Non. Enfin, en tout cas, c'est vraiment, on passe un moment absolument formidable et
Les 10 règles pour faire un casse réussi.
C'est de même. Et puis les ingrédients qu'ils utilisent, il y a du faux sel, enfin
des machins. Söderberg, il vieillit bien, je veux dire que. Parce qu'il reste libre, quoi. Il fait ce qu'il veut. Il faut dire qu'il n'est pas produit par Weinstein. Mais ça, c'est
intéressant aussi.
À Hollywood, ça devient une exception.
Il produit lui-même son film, il a mis tout un système en place de financement autonome. Enfin, c'est ça qui est aussi passionnant.
C'est plutôt sympathique.
Et il prend à contre-pied les attentes que le film pourrait susciter, donc ça c'est
Logan Lucky, des réactions sur ce film? Non. Encore un film qui était à Cannes, c'est Mise à mort du cerf sacré, le film de Yorgos Lanthimos avec Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan, qui a reçu à Cannes quand même le prix du scénario, même si c'était ex aequo avec le film de Lynn Ramsey, qui sortira le 8 novembre, donc on en parlera bientôt. Colin Farrell, c'est Steven, un chirurgien marié à Anna, une ophtalmologue incarnée par Nicole Kidman. Ils ont 2 enfants, 14-12 ans, et même un troisième, puisque Steven a pris sous son aile Martin, 16 ans, un jeune garçon dont le père est mort dans le bloc chirurgical de Steven. Alors, Martin va prendre progressivement une place de plus en plus importante dans la famille, au point de conduire Steven à un sacrifice digne de la tragédie grecque. Et que Pierre va bientôt vous raconter. C'est une femme
très. Non, je peux pas, justement. Je peux pas.
Tu pourrais.
Je peux pas.
C'est une femme très allégorique, un peu, je dis bien, un tout petit peu buñuelienne, un peu, tout petit peu lynchienne, mais qu'il n'est pas interdit de trouver beaucoup, un peu, non, peu, beaucoup, lourde, très lourde. Pierre?
Ah ben moi, je déteste ça.
Je déteste
carrément. Je ne peux pas dire
là,
pourquoi.
Là, tu me fais du bien, là.
Non, parce que je ne peux pas, évidemment, dire pourquoi.
On peut argumenter pourquoi on le déteste.
Voilà. C'est absolument un film détestable. Alors la première heure peut faire illusion parce que c'est vrai qu'il y a une sorte de glaciation dans la mise en scène. Moi j'ai pensé un peu, plutôt que les noms que tu as dit, à Joseph Losey, accident comme ça, c'est des gens qui entre eux ont le vide
avec un peu de fantastique quand même.
Parce que par exemple l'adolescent qui arrive là, moi je pensais que d'abord il voulait séduire le père. Puis ensuite, je pensais qu'il voulait séduire la mère. Puis en fait, son propos est tout à fait autre. Et quand on comprend pourquoi il est là, et quand on...
On comprend assez vite. Hein.
Mais pardon ?
Rien.
Non, mais ça devient vraiment, pour moi, un film que, philosophiquement est moralement, je trouve, inepte. Ouais. Et qu'on parle pas, par pitié, de tragédie grecque, parce que la tragédie grecque, c'était...
Mais c'était c'est l'argument qui a prévalu quand on lui a filé le prix du scénario.
Oui, hein. D'ailleurs, il parle d'Iphigénie dans le film. Lui-même parle d'Iphigénie.
Absolument.
Oui,
je rappelle qu'il s'appelle
l'Antinous. C'est un drame bourgeois de la plus pire espèce. Je trouve ça, mais indéfendable.
Et puis la démonstration est quand même très, très pesante.
Voilà, c'est très pesant, mais c'est ignoble. Ce qu'il montre, ce qu'il montre, ce qu'il dit, ce qu'il prétend, ce qu'il amène à faire est ignoble. Il faut dire que c'est ignoble. Voilà.
Sauf que je ne t'ai pas donné la parole, donc je vais demander à Sophie ce qu'elle en pense.
Désolé Nicolas, mais moi je suis d'accord avec Pierre, je trouve ce film exécrable. Exécrable. Mais en plus, je le trouvais roublard à Cannes. Je l'ai revu en me disant, bon, quand même, il faut que je le revoie. Mais je le trouve bête, en plus. Je le trouve vide. Il ne réfléchit rien de la condition humaine. Il ne dit rien. La tragédie, les sacrifices, tout ça. Il fait semblant d'avoir de faire jouer de manière mécanique, les acteurs pour qu'on voit bien qu'on va vers quelque chose qui n'est pas trop naturaliste, etc. Et pour négocier le virage surnaturel, entre guillemets. Et en fait, ces gens-là, c'est des gens qui sont juste contents d'eux, qui sont nantis et qui vont être châtiés, voilà, point. Et ça ne dit rien de plus, c'est idiot, c'est vide, et c'est d'une prétention.
Très prétentieux.
Alors là, le très style, merci, hein, parce qu'il fait des plans en plongée, le sujet est d'autant plus petit qu'il fait des plans écrasants, énormes, et c'est d'une prétention vraiment insupportable.
Nicolas.
Bonsoir. Nicolas.
Bonsoir. Alors, je discuterai pas sur le style d'Antimos, qui effectivement n'est pas d'une grande légèreté. Mais moi, je trouve ce film assez fascinant et assez brillant. C'est-à-dire qu'à la
brillant.
Mais oui, alors dans la première partie, on se croit qu'on est dans un film à la Théorème de Pasolini. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce, d'adolescent qui s'incruse dans cette famille bourgeoise. On ne sait pas trop ce qui va en être des rapports de séduction ou autre. Donc il y a ce rapport avec le personnage de Colin Farrell, donc du père de famille, qu'on comprend assez vite, est lié à la mort du père du gamin. Le gamin, donc, va commencer à lui reprocher. On sait pas trop. On croit que c'est un accident et finalement, on apprend des choses pendant le film. Mais après, dans la deuxième partie, le film devient carrément une allégorie. Alors, on en pense ce qu'on veut. Oui, mais ça devient vraiment un film sur, en gros, sur l'Antimos est grec, sur les rapports entre l'Union européenne et ces pays en crise. C'est-à-dire, clairement. C'est ça. Pourquoi le choix de Colin Farrell, qui est irlandais? Non, mais les choix. Alors après, on peut trouver ça trop théorique, trop ce que vous voulez. Mais sauf que c'est passionnant parce que de représenter le capitalisme. Parce que l'Antimo, c'est un cinéaste qui lande sur Buñuel depuis toujours dans cette côté fable absurde.
C'est un gros malin provocateur.
Et en même temps, s'en prend lui. Buñuel, c'était vraiment beaucoup plus l'Église. Lui, il s'en prend vraiment au capitalisme. À chaque fois, c'est des métaphores comme ça autour de la famille. Et je trouve ça assez passionnant d'incarner le capitalisme à travers cette famille bourgeoise. Donc, encore une fois, Colin Farrell, qui est irlandais, ce n'est pas innocent quand on sait les rapports entre l'Irlande et la Grèce dans ces rapports-là. Ce personnage, vous voyez, à un moment, il le dit dans le film, clairement, c'est une métaphore, mais en même temps, c'est assez drôle. Il y a toujours, c'est toujours entre l'humour, il essaie à chaque fois de cacher.
Iphigénie, la métaphore.
Mais c'est qu'au moment où il essaie une métaphore, il s'arrache le bras, il se mord le bras, il s'arrache. Il y a quelque chose de très concret, de très violent et de très organique.
Il y a pas d'épaisseur humaine en même temps.
Il s'arrache le bras, oui.
Mais non, et je trouve que on peut trouver ça, quand Pierre dit c'est absolument répugnant et tout ça, sauf que la violence vers laquelle va le film, c'est vraiment il ne pouvait pas faire autrement que la violence du capitalisme, elle est là, quoi.
C'est-à-dire que l'incarner là-dedans.
Je trouve ça assez passionnant.
Beaucoup plus malin et beaucoup plus pernicieux que cette espèce de.
Mais ce qui est pernicieux, sont les rapports entre les personnages dans le film. Ce qui est pernicieux, sont les rapports. Alors après, qu'on ne supporte pas ce cinéma, je comprends.
Il s'est pas retombé sur ses pieds, Nicolas. Il a le chic pour avoir des débuts pleins d'audace.
La dernière scène.
Et ne jamais retomber sur ses pieds.
Après la scène,
et le film précédent, c'était pareil. Il retombait pas sur ses pieds. Il part comme ça et puis il n'y arrive pas parce qu'il est court.
Non, parce que derrière, il y a aussi, je vais pas non plus rentrer dans les détails, mais il y a une forme de romanesque qui se crée entre les deux personnages, le personnage de la gamine et ce personnage d'intrus. Il y a une relation qui se crée et tout ça. Moi, je trouve que c'est foisonnant, qu'il y a plein d'idées. Alors après qu'on trouve ça pas léger, je le conçois, mais je trouve qu'il y a un vrai. L'Antimos, vous verrez dans quelques années.
Et le titre, mise à mort du cerf sacré.
C'est très prétentieux.
On va dire qu'il n'est pas dans la. Il n'est
mise
pas peu
à mort du cerf sacré.
Mais je trouve le film bien plus passionnant que ce qu'on essaie de
Daniel.
Le.
Daniel.
Je sais pas, Nicolas, il voit une grande critique du capitalisme. Mais non, moi, j'y ai vu un abominable film sur la responsabilité et la vengeance et le propos. propos est inadmissible. Voilà, ce que ça raconte est inadmissible, insupportable.
Non, ça raconte
insupportable.
Pas, ça raconte rien.
Non,
mais quel
voilà.
est le propos
bah, non, bah, je veux dire.
Parle de sacrifice.
Mais, voilà, non,
oui,
mais
enfin, le sacrifice, ça rejoint.
Mais la parabole, la métaphore. Mais comment on peut aller jusque-là voilà, mais c'est immonde. C'est enfin, immonde, voilà. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. On comprend que ce gamin soit très fâché que son papa soit mort sur la table d'opération. C'est fâcheux. Certes, mais je veux dire, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun
T'imagines si
ça
a peut-être trop de sens, justement.
Enfin, ah oui, oh bah dis donc, ça on sera bien. Non, je veux dire, vraiment, et avec une complaisance, enfin, une froideur clinique dans l'image, c'est insupportable.
La dernière scène,
qui va la raconter, je
justement,
connais.
Il rattrape ça avec la dernière scène, non, qui est très belle, c'est un amour impossible.
Il ne rattrape rien.
Il ne rattrape rien, absolument.
Il ne rattrape rien.
C'était la mise à mort du film de Yorgos Lanthimos. voilà, allez, Carbone, le nouveau film d'Olivier Marchal, vous savez, l'ancien flic de la criminelle. À moins qu'il y ait des réactions sur le Lanthimos, peut-être.
Non. Ah oui, ça serait bien.
Non. Ah oui. Carbone, dont je le disais, le nouveau film de cet ancien flic de la criminelle et de l'antiterrorisme devenu, vous le savez tous, le réalisateur de 36 Quai des Orfèvres et des Lyonnais. Et Carbone, comme le titre l'indique, c'est un film qui porte sur une sombre affaire d'arnaque à la fameuse taxe carbone. Ce qu'on comprend dès le premier plan, c'est que Benoît Magimel, au moment où il rentre chez lui, se fait tirer dessus et baigne dans son sang, c'est sur le trottoir. Hein. Donc ça, on comprend dès le début que ça va aller mal pour lui à la fin. Ça, au moins, on peut le révéler.
On peut dire la fin pour lui,
parce que c'est le début.
La suite est donc un retour en arrière qui est long d'une heure 45, où on voit Magimel déposer le bilan de sa PME et se renflouer en lançant donc à l'échelle mondiale une fraude à la taxe carbone. J'ai pas tout compris.
Ah, merci.
J'ai pas tout compris. Non, mais.
Ça me console.
J'ai vu que c'était d'une sublime arnaque quand même, parce que ça rapporte des milliards, mais
elle est réelle,
procédé.
En plus. Elle a eu lieu.
Mais je sais, mais j'ai du mal à la comprendre.
Ah, merci.
Je le dis.
Ah, je suis contente.
Il s'associe à de petits voyous juifs et emprunte de l'argent à un chef de gang musulman. Déjà là, on voit qu'il y a un problème. Il faut ajouter Depardieu, que j'adore toujours, alors là, plus brando que jamais, en beau-père et par un juif. Alors là, il est...
Il
réussit même à être crédible dans ce rôle. Laura Smet, en très mauvais état à la fin du film, je vous le dis.
Elle n'a pas grand-chose à faire.
Elle est mieux dans le... Elle est en meilleur état dans Les Gardiennes, le prochain film de Xavier Beauvois, même si elle est moins crédible dans le rôle. et Dany, alors là, que je l'ai trouvée très touchante.
Très bien, Dany.
En maman dépassée par la voyouterie de ses fils et en même temps toujours là pour les défendre. Ouais. Et enfin, le dernier plan, qui est aussi le premier, montre que rien n'est aussi simple. Daniel.
Oui, c'est bon. C'est un bon film de casse. Franchement, moi, j'ai eu un peu de mal. D'abord, j'ai rien compris.
Enfin, c'est un casse.
Oui,
numérique,
virtuel.
Hein,
un casse virtuel, hein, un milliard d'euros sur la taxe carbone, c'est totalement, ça m'a dépassé totalement.
Parce que c'est tous les pays
qui sont là.
Il crée une bulle qui a explosé. Ok, d'accord, d'accord. Voilà. Bon. Donc, je ne me suis pas beaucoup intéressée à l'arnaque elle-même, puisque je ne comprenais rien. Et à un moment donné, j'ai été épuisée de ne fréquenter que des gens très antipathiques, quand même. Je veux dire, bon, le pauvre Magimel, il fait ce qu'il peut et il est bien d'ailleurs dans ce qu'il a à faire, mais tout le reste, l'entourage, ce sont vraiment que des gens que j'ai pas envie de fréquenter pendant 1h45. Et vraiment, ce qui m'a émue, et je la trouve magnifique, c'est Dany,
oui.
Qui est la mère, une mère et toutes les mères, et qui arrive avec un petit rôle de tenancière de bar, essayant de protéger ses garnements.
Mais dans une sorte de péniche sur la scène.
Voilà, d'avoir une émotion, une justesse et une présence. Et donc, je sauve Dany d'un film qui, par ailleurs, ne m'a pas passionné.
Oui, c'est sûr qu'on se lève tous pour Dany et
pas grand-chose à rajouter. Si donc, moi non plus, je n'ai rien compris. Mais je crois que ce n'est pas très grave, parce que j'ai entendu dans une radio périphérique le réalisateur dire qu'il n'avait rien compris non plus. Donc, il n'a rien compris.
C'est pas
très très grave de rien comprendre. Le problème, c'est que ce qu'on comprend n'est pas très 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 passionnant. Moi, ça m'a rappelé les films d'Alexandre Arcadie.
C'est pas faux. Oui, pour le côté
la famille Bruel, machin. Bon, alors je trouve que Magimel est vraiment bien. Et puis tout ce qui Laura Smet, mais alors n'a rien à faire à part prendre des coups, la pauvre.
Des sacrés coups même. Hein.
Ah oui, oui, oui. Ils sont très brutaux et très méchants, ces gens-là. Et on n'a pas très envie, en effet, de les fréquenter. Et moi, qui aime bien les polars, etc., bah, j'ai été un peu déçu. Je trouve ça...
Gégé est bien.
Gégé est très bien.
Non, moi, il est enfin, pas
Gégé,
bien.
Il a des répliques un peu impossibles à dire. Il a des dialogues surempoilés, surécrits.
Mais il est rigolo comme tout. Je sais pas s'il le fait exprès, mais il est rigolo.
Il joue au grand degré, au moins.
Oui, oui. Voilà,
au
c'est
moins.
Ça. Au moins. Au moins. Donc, c'est pas bon.
Oui, Nicolas. Non, mais... Bonsoir. Enchanté. Non, mais moi, j'ai la patte Marshall. Je trouve que, enfin, Marshall est arrivé à un moment, il avait un peu, on disait qu'il avait un peu renouvelé le polar français. C'est vrai qu'il avait amené, une forme d'expertise du terrain et de connaissances et de gouailles comme ça qu'il a redonné du milieu et moi je trouve qu'il est un peu arrivé au bout d'un système et qu'on est un peu épuisé, c'est un peu la litanie des effets Marshall, c'est-à-dire ces personnages de type cramé, ces BM à vitre teintée, la coke, la nuit, tout ça, enfin c'est un peu tous les stéréotypes marshalliens, sauf que là le problème c'est que
ce sont les stéréotypes de ce milieu-là et de cette fraude-là, hein.
Peut-être, mais là, en l'occurrence, on a l'impression quand même qu'il a un peu adapté. Enfin, je connais pas bien l'histoire, mais qu'il a un peu adapté ça aussi à l'histoire. Alors, pour le coup, les histoires de la taxe carbone et cette arnaque étaient assez intéressantes. C'est vrai qu'elles sont résumées assez vite au début du film. Elles sont présentées. Après, c'est un peu la déclinaison de Marshall, du film Marshall. Et surtout, je pense que l'erreur, c'est d'avoir voulu en faire une tragédie. On va encore revenir là et d'avoir expliqué dès le début que le personnage mourait. Du coup, ça donne une espèce de le film devient très prévisible et ça ne donne au lieu de donner une dimension au film un peu tragique. Ça rend le film très attendu et je trouve ça quand même pas très inspiré.
Sophie,
je trouve le film un peu chargé et un peu trop chargé, mais en revanche je suis pas d'accord sur la tragédie. Je trouve que ça c'était intéressant parce que justement tout le monde le prévient qu'il faut pas y aller et c'est ça la tragédie. Hein. Les Pythies, les Cassandres préviennent qu'il faut pas, mais ça se déroule quand même et ça se fait quand même. Oui. Et je trouve que là il arrive à choper quelque chose d'assez ambigu sur le vertige qu'il y a à se perdre. On a le sentiment à un moment donné que Benoît Magimel il y va aussi parce que il y a le plaisir de sa propre chute. Et moi, je trouve que ça, c'est assez beau. Il y a une élégie, enfin, il y a quelque chose d'élégiaque dans le film que je trouve assez beau. Bon, encore une fois, le film est un peu lourd, un peu chargé, c'est vrai.
Il le dit à la fin, la mort est moins douloureuse quand on est épuisé. Enfin, c'est un peu
surécrit
aussi. Tout
n'est pas parfait. Le personnage de Depardieu, moi, je suis pas
d'accord avec Sophie sur Magimel. En plus, on sent une souffrance. Même quand il réussit, on sent une souffrance.
Voilà, il le dit à un moment d'ailleurs. Alors, à Smet, il dit, mais je peux pas m'arrêter, il faut que j'y aille.
C'est ce qui reste chez Marshall.
C'est assez fort.
Oui, ce goût des gueules cassées.
Olivier Marshall, rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Ces jeunes femmes, le premier film de Léonore Serrail, 30 ans et des poussières, avec Laetitia Doche et Grégoire Mont-Saint-Jean, qui lui a valu à Cannes quand même la très enviée. On peut un peu la discuter, Caméra d'or. Un film porté donc par cette Laetitia Doche, alias Paula, de retour à Paris après une longue absence et une rupture récente. Elle n'a pas de travail. Pas d'amis, elle va se cogner à toutes les portes, à commencer par celle de son ex, et en chemin, elle squatte, devient nounou, vendeuse dans un bar à culottes, décide de ne pas garder l'enfant qu'elle attend, j'en oublie. Il y a aussi un chat avec lequel il faut compter, j'ai pensé à toi, Daniel. Oui. Mais ça m'a fait plutôt penser à une suite de sketchs qu'à un film proprement dit. Reste que cette Laetitia Doche est épatante. Je précise d'ailleurs qu'elle vient de jouer au Rond-Point, un spectacle formidable qui s'appelle Un album, où elle rend hommage à la géniale Zouk. Jeune femme, quelques mots.
Alors, je l'ai vu il y a donc à Cannes et je l'ai oublié. C'est un film qui s'oublie assez vite. Je trouve que je suis d'accord. C'est un film à sketch. C'est ça que j'ai pas compris pourquoi il avait la caméra d'or. Peut espérer une réalisatrice qui a un univers. Ouais. Alors il y a un petit univers, c'est vrai, mais un peu répétitif. Et au bout de la troisième ou quatrième fois qu'elle téléphone, puis elle se heurte, etc. Je trouve ça pas déshonorant du tout, mais moyen.
Nicolas.
Oui, pareil. Moi, je trouve que c'est vraiment un film qui est vampirisé par la prestation de Laetitia Doche et qui, du coup, a une espèce d'égocentrisme autour de ce personnage qui oublie un peu tous les autres. Sur la contemporanéité du film, moi, j'ai vraiment l'impression, en termes de cinéma, de voir un film assez vieillot qui me rappelle les films des années 90, les premiers Laurence Ferrara-Barbosa, les premiers Noémie Lvovsky. Je trouve ça dommage que ce soit ce film qui ait eu la caméra d'or aussi à Cannes, avec toute le foisonnement qu'il y avait de films intéressants. Du coup, je trouve qu'il y a une dithyrambe de la presse que même si, un peu non, décalé
même
par
même
les...
si elle est quand même je ouais, elle est formidable Doche, mais elle est vraiment voilà, bien quoi.
Il y a un manque d'empathie.
Oui, elle est très très bien, elle est très très bien. Bon, c'est un film à sketch sur une fille dans la solitude urbaine et quand même c'est une tête à claque. Voilà. Donc voilà,
le chat est très bien.
Le chat est bien, elle se le trimballe, elle enfin bon, très bien.
Compliqué.
Mais et c'est un peu compliqué le chat, oui. Et c'est pas vraiment une très 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 bonne nounou non plus. Mais bon, il y a une sympathie, il y a ce qui est profondément sympathique, c'est la fascination de la jeune réalisatrice pour sa jeune interprète. Quoi. Voilà, il y a une rencontre et il y a voilà, je la trouve magnifique et je vais tout lui donner. Oui, c'est gentil.
Sophie.
C'est un film magnifique, vraiment très très beau. Évanescent, c'est vrai, fragile, mais c'est sa beauté même d'être dans la fragilité parce que c'est un personnage fragile. En même temps, c'est un personnage formidable. Tête à claque, tu dis, mais il est aussi très attachant. C'est une femme qui est à la fois conciliante et véhémente. C'est une femme qui ne veut pas qu'il soit dit qu'elle est malmenée par la vie et elle est tout le temps en train de se battre. Elle a un mental de conquérante alors qu'elle frise sans arrêt la catastrophe. C'est un magnifique personnage de femme. C'est pas du tout un film à sketch. C'est un film qui a l'air désorganisé, mais qui est au contraire extraordinairement bien organisé. Qui regarde ces personnages avec une finesse, avec un sens du détail extraordinaire, qui regarde aussi la société. Il y a un plan, je finirai avec ça, un plan sur les rapports avec sa mère, où elle parle avec sa mère, qui est jouée par Nathalie Richard. On ne sait rien de ces relations-là, sauf qu'elles sont problématiques. Et on voit juste un rhododendron qui va vers le salpêtre du plafond. Voilà, ça, c'est de la mise en scène. Ça dit tout de ces relations.
Oh, j'ai loupé le rhododendron.
Ah ben ouais, et pourtant, il est là. Et je t'assure que le film n'est pas du tout un film à sketch.
Là, en gros,
c'est
tu nous
magnifique.
Dis qu'on est tous des imbéciles, voilà. Quoi, en gros. Là.
Non, mais je l'ai vu deux fois. Je l'ai revu parce que effectivement il est évanescent, je l'avais un peu oublié, je l'ai revu aujourd'hui et je vous assure c'est un très beau film.
Jeune femme, donc La caméra d'or de Cannes et c'est signé Léonore Serrail. Allez, le temps est venu des conseils, on va commencer avec ce film.
Alors il y a une flopée de documentaires, il ne s'agit pas de tous les recommander mais il y en a tellement. Il y a alors du plus long Ex Libris de Weissman qui dure 3h17 et qui est un formidable documentaire sur la bibliothèque de New York ou plus... court, 1h17, qui est Les bobines des bobines et des hommes de Charlotte Push, qui est un très très joli film sur la fermeture d'une entreprise, en passant par Carré 35. Enfin voilà, c'est vraiment le documentaire dans toutes ses formes et dans toute sa beauté.
Et il y en aura beaucoup dans les semaines à venir.
Et il y en a d'autres qui arrivent. Ouais.
Daniel.
Eh bien moi aussi, mes coups de cœur, mais alors véritablement des grands coups de cœur, ce sont deux documentaires. Braguino, de Clément Cogitore, qui nous avait époustouflé avec ni le ciel ni la terre, son premier film. Et là, il est parti dans la taïga, au fin fond de la steppe sibérienne, où il voit une famille, une utopie d'une famille qui s'est installée là. C'est une splendeur, ça dure 50 minutes. Et c'est un documentaire où il y a énormément de cinéma, comme dans Ni le ciel ni la terre. C'était un film de cinéma où il y avait énormément de documentaires. C'est un type qui a un talent absolument fou. Et un autre documentaire d'Éric Caravaca qui s'appelle Carré 35,
qui est très bien,
qui très est beau film,
magnifique, très, très bien, déchirant. Ouais. Une petite sœur qui est morte avant sa naissance, on ne lui a jamais dit. Il cherche sa tombe, il n'y a pas de photo de cet enfant, et c'est la révélation d'un secret de famille, mais avec une délicatesse folle.
Mon conseil, c'est un petit film, je le dis d'emblée, mais que j'ai trouvé très juste, c'est Leçon de classe du Pragois Jan Rebeschk. Qui se déroule à Bratislava en 1983 dans une école où l'enseignante, qui est membre active du Parti communiste local, va manipuler à son avantage les élèves et les parents pour prouver que tout individu est destiné à être corrompu. Encore une fois, c'est un petit film, mais que j'ai trouvé notamment incarné par cette prof pourrie et communiste assez réussie. Leçon de classe, le conseil de Nicolas.
Alors moi j'ajouterai ma voix à l'éloge du documentaire et notamment de Carré 35. Je vais pas et je vais ajouter un autre documentaire qui est sorti je crois il y a une ou deux semaines qui s'appelle Sans adieu. Sans adieu, qui est un documentaire de Christophe Gaou, je crois, qui est décédé après le montage du film et qui a passé une dizaine d'années dans sa région natale du Forez pour filmer des paysans, mais vraiment des paysans à l'ancienne, qui vivent encore dans des maisons faites de bois, de tôle et qui sont complètement effacés par la modernité. Il a filmé ça au caméscope pendant une dizaine d'années et le film est absolument poignant. On voit vraiment un monde en voie de disparition et encore une fois la pression du monde moderne et du capitaliste qui s'exprime par le biais de coups de fil des banquiers et tout ça, c'est vraiment très très beau.
Et donc, le conseil de Pierre ?
Un livre formidable écrit par Christine Leteux et publié à la Tour Verte. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur la continentale et le cinéma allemand, notamment Jacques Siclier qui avait fait un bouquin. Et là, alors deux avantages à Christine Leteux, c'est que d'abord, elle écrit simplement comprend. C'est-à-dire que c'est pas une thèse universitaire, on comprend absolument tout et on comprend que trop bien ce qui s'est passé. Et deuxièmement, il y a eu affaire à toutes les archives. Donc c'est vraiment le point définitif et ça se lit comme un polar et on voit absolument ceux qui sont vraiment très bien conduits, ceux qui sont un tout petit peu moins bien conduits et c'est absolument formidable.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume franceinter.fr. Merci beaucoup Sophie Avon, Daniel Lehmann, Nicolas Chalair et Pierre Murat pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam et ce soir au Charles Trenet à la technique. Il y avait, je les remercie, Julien Douminc, Guillaume Ledu et Bastien Varigaud. La réalisation était de Didier Lagarde et notez bien s'il vous plaît que le prochain enregistrement du Masque aura lieu le jeudi 16 novembre à 20h au studio Sacha Guitry de la Maison de la Radio pour deux émissions, l'une consacrée au cinéma et l'autre au livre. On parle dans une semaine de théâtre et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.